suis-je pour juger ? Vous vous souvenez de cette phrase du pape François qui répondait à une journaliste sur la question de l'homosexualité dans l'Église et qui a mis un certain nombre de fidèles en PLS ? C'est une phrase qui reprend un certain nombre de paroles d'évangile en l'occurrence et qui ouvre une réflexion passionnante sur la justice. On la trouve surtout dans la lettre de Jacques quand il dit, c'est une citation, « Celui qui juge son frère juge la loi. » Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Ce passage du Nouveau Testament, il interroge notre autorité. On n'est pas tous habilités à juger parce qu'on n'a pas tous les éléments d'un dossier, on ne connaît pas forcément la vérité, surtout parce qu'on est toujours biaisé. Ce que je trouve intéressant, c'est de nous renvoyer à nos propres failles, à l'illusion qu'on peut avoir de notre personne morale. Vous savez, je suis frappé aujourd'hui par cette façon qu'on a, dès qu'on a une parole publique, que ce soit à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux, de vérifier qu'on ne dérape pas, qu'on emploie les bons termes, qu'on ne blesse personne, de peur d'être soi-même condamné. En voulant faire le bien, on est sans cesse surveillé, y compris par soi-même. On passe son temps à juger pour ne pas l'être en retour. C'est épuisant, mais surtout c'est effrayant, parce qu'on en vient à ne plus penser et à oublier que le jugement, en vérité, on n'en a pas l'autorité. Qui suis-je pour juger ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il dans le jugement ? Depuis 25 ans, en parallèle de sa carrière de comédien, il trace un parcours de cinéaste tout en nuances et en coups d'éclat. Souvenez-vous de Ma femme est une actrice, du Brio ou encore de Mon chien stupide. Il signe mercredi prochain une variation sur les choses humaines de Karine Thuil, Goncourt des lycéens il y a 2 ans. C'est l'histoire, vous vous souvenez peut-être, d'un procès pour viol où la vérité se déplace d'un camp à l'autre, semant le trouble autant chez les personnages que chez le spectateur, en l'occurrence, qui est face à son propre jugement. Bonjour Yvan Attal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Au fond, qui sommes-nous pour juger, tiens ?
Ben c'est exactement, j'écoutais ce texte que vous lisiez, c'est exactement ce que j'ai ressenti en faisant ce film. Je suis allé au cours de la préparation du film, j'ai assisté à un procès. J'imagine qu'on va revenir sur le sujet du film, etc. Et j'étais en cour d'assises. Il y avait un homme coupable, puisqu'il le reconnaissait clairement, dans le box des accusés. Et je me disais, en fait, le pire, c'est d'être là dans le jury et d'avoir la responsabilité d'avoir à juger cet homme.
Oui.
Aussi coupable qu'il est. Mais comment on fait pour rentrer chez soi et pour s'endormir tranquille en disant j'ai envoyé un homme à 1 an, 10 ans, 20 ans de prison?
Au fond, pourquoi c'est si difficile de rendre la justice? C'est une question que vous posez dans le film.
Mais parce que c'est complexe, très complexe. Pour cette raison-là, d'ailleurs, parce que même une histoire pas complexe, comme ce procès auquel j'ai assisté, c'est toujours difficile de se dire je juge mon semblable, je juge quelqu'un. Est-ce que c'est juste? Maintenant, il y a des histoires évidemment très compliquées. Aujourd'hui, tout le monde juge à l'emporte-pièce, derrière son portable, on condamne les gens. Ça fait des dizaines d'années qu'on a aboli la peine de mort et on coupe des têtes toutes les 4 secondes.
Alors précisément, qu'est-ce qui vous a le plus troublé, vous, dans le roman de Karine Thuil, les choses humaines en tant que père, en tant qu'homme, Yvan Attal?
Ben en fait, c'est surtout en tant que père que j'ai été bouleversé par le livre de Karine. Je suis le père d'un garçon, je suis le père de 2 filles, et en lisant le livre, effectivement, je pouvais m'identifier à tous les personnages. Je pouvais me dire quand j'étais du côté des parents du garçon, parce qu'évidemment, bon, c'était plus difficile de m'identifier au protagoniste vu mon âge. Donc, j'étais vraiment du côté des parents à chaque fois. Quand j'étais quand je m'identifiais aux parents du garçon, je me disais qui est cette fille? Elle est complètement folle. C'est pas possible. Mon fils est incapable d'une chose pareille. Et inversement, du côté de la fille, je me disais si je croise ce jeune homme, je l'étrangle.
Alors, ce qui est passionnant, Yvan Attal, c'est que vous y répondez à toutes ces questions par le cinéma, à travers ce genre qu'on appelle le film de procès, qui permet de rendre compte justement de la complexité qu'il peut y avoir à juger un individu. Qu'est-ce que c'est un bon film de procès pour vous qui êtes aussi un amateur de cinéma?
Alors, un film de procès, en réalité, je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que en même temps, c'est un genre en soi. Ça veut dire qu'on reste dans un décor unique pendant un certain temps. Et que c'est ça qui effraie un peu énormément de metteurs en scène. Et quand j'ai réalisé que j'allais devoir filmer, ou en tout cas rester 1 heure de film dans ce procès, je me suis posé des questions. Déjà au scénario, on a entrecoupé ce procès de scènes d'espèce de flashback qui serait une pseudo-réalité de ce dont on parle au procès, de ce qu'on aimerait savoir la suite. Et donc du coup, à chaque fois qu'on quitte le procès, j'ai l'impression qu'on est à la fois peut-être que ça nous soulage, mais en même temps, on s'attend à voir des choses qui vont éclairer ensuite le procès. Et puis après, au tournage, on se pose des questions. Comment on filme pour pas ennuyer le spectateur pendant une heure? Et évidemment, j'ai trouvé des réponses dans certains films, mais à nouveau, mon passage en cour d'assises a été la plus grande influence. Je me suis rendu compte de la tension, du silence qu'il y avait, et surtout de l'écoute de la parole qui était donnée aux gens à qui on donnait la parole. Ça veut dire que, en fait, on est totalement attentif à chaque mot, à chaque silence, à chaque respiration, comme si on allait déceler une espèce de vérité. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je filme les gens sans couper, sans... D'ailleurs, il n'y a pas d'objection, votre honneur, et de marteau et de réaction dans la salle. J'avais envie d'être vraiment avec les gens qui avaient la parole, si possible en plan séquence, pour les écouter, pour être attentif à leurs paroles.
À vous entendre, je pense à La vérité de Clouseau, à Kramer contre Kramer, de Robert Benton, mais surtout à 12 hommes en colère.
C'est des films que j'ai regardés, évidemment.
Alors justement, 12 hommes en colère avec Henri Fonda, je le rappelle, qu'est-ce qui vous a tant marqué? Quelles scènes, quelles images, Yvon Attal?
Bah, c'est la situation, surtout, parce que les images, justement, c'est un film qui rassure quand on veut filmer un tribunal. On est même pas dans un tribunal dans 12 hommes en colère. On est dans la salle, oui. Autour d'une table comme ici, il y a 12 hommes qui discutent. Je crois qu'il y a 3 fenêtres et c'est tout ce qu'il y a sur les murs. Donc, ce cinéaste arrive à nous capter, à capter l'attention du spectateur pendant une heure et demie, avec rien d'autre que des plans sur des gens qui parlent.
Et avec des mots, c'est ça exactement, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, filmer la parole, filmer les mots lors d'un procès, que deviennent les mots en fait?
Bah, ça devient la seule chose à laquelle on peut s'accrocher. Mais encore une fois, dans 12 hommes en colère, ceci dit, j'ai l'impression que La vérité de Clouseau est le film le plus proche, ouais, des choses humaines. Mais formellement, c'est vrai que 12 hommes en colère rassure beaucoup. Mais ce sont les... Alors, Kramer contre Kramer, il y a une espèce de tout petit procès, mais qui m'a... Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça quand j'ai, en adaptant le livre, à structurer comme ça, lui, elle, et le procès, comme s'il y avait 3 chapitres, mais parce que ça tenait dans le titre de Kramer contre Kramer. Ouais. J'avais envie de m'attacher à lui, à elle, comme on s'attache au père et à la mère dans Kramer contre Kramer.
Mais c'est intéressant si on revient aux mots, parce que dans vos derniers films, Yvan, il se trouve que les mots ont une grande importance. Dans Mon chien stupide, vous incarniez un écrivain. Dans Le Brio, avec Amélia Jordan et Daniel Auteuil, on parlait de la puissance des mots. Au fond, pour vous, que peuvent les mots? C'est une question que je me suis posée.
C'est pas simplement les mots, mais c'est la pensée, c'est comment les mots arrivent. Ça me fascine. Et souvent, quand je suis en face des gens, que je les écoute parler, je suis fasciné par... Ouais, leur façon de parler, comment les mots arrivent dans leur bouche, comment ça... J'aimerais être à l'intérieur, quoi. Les mots, c'est juste le dernier moment, quoi. Je sais pas comment expliquer ça.
Alors, ils ne permettent pas d'accéder à la vérité, les mots?
Non, malheureusement, non. Ce serait trop facile.
Vous savez, c'est la force, à mon avis, de votre film, et c'était déjà le cas du roman de Karine Thuil, c'est qu'en fin de compte, dans certains cas, on n'a pas d'autre choix que d'accepter qu'on ne la connaîtra jamais. La vérité, peut-on faire le deuil de la vérité, Yvon Attal?
C'est très compliqué, en tout cas quand on est, une victime, dans le cas du film, mais on est bien obligé de faire le deuil de la vérité, parce que, enfin, je vais pas faire le philosophe, mais est-ce qu'il y a une vérité? C'est d'ailleurs de ça dont parle le film, et pas que dans les tribunaux. Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce que depuis le film, je me suis beaucoup interrogé. À chaque fois que je m'engueule avec quelqu'un, je me dis, si ça se trouve, c'est moi qui ai tort. Et depuis ce film, j'essaye de changer de place, de regard, mais parce qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité.
Vous savez qu'il y en a une qui n'est jamais en deuil, ni de vérité d'ailleurs, dans cette émission, vous la connaissez peut-être, Yvan, c'est La Culture. Et son actualité, Veuve Joyeuse, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 24 novembre? Ça ça va swinguer à Bourges. Comme les deux intéressés ont fini par le révéler il y a 3 jours, la 46e édition du Printemps de Bourges s'ouvrira avec le duo père-fils Jacques et Thomas Dutronc, en exclu ce matin dans Boomerang. On peut aussi vous annoncer que le festival, qui se tiendra du 19 au 23 avril, s'apprête à dévoiler d'ici quelques heures ses 30 premiers artistes et groupes invités, parmi lesquels Clara Luciani, Eddie De Preto, Juliette Armanet, IAM, Lily Wood and the Prix, Calypso Rose ou encore Brigitte Fontaine, pourvu que ça tienne. Une récompense qui a du chien, le très chic jury du prix 30 millions d'amis, qui réunit notamment Michel Houellebecq, Teresa Crémisi, Irène Frein, a dévoilé hier ses lauréats 2021. Résultat, c'est le roman de Vincent Maillard, L'os de Lebowski, qui remporte la mise, publiée par les éditions Philippe Ray, qui réalise le grand chelem de cette rentrée, avec le Goncourt et le Grand Prix de littérature américaine. Le texte, teinté d'ironie, met en scène la découverte d'un os humain par un cabot et l'enquête truculente qui s'ensuit.
Il n'y a pas de grande architecture sans passion.
Équerre et paix, l'équerre d'argent, prestigieuse récompense française d'architecture, a été décernée hier à l'ensemble scolaire de Neuvecelle en Haute-Savoie. La réalisation, signée par la jeune agence PNG Architecture, réunit avec brio besoins de la communauté et enjeux environnementaux. Elle se déploie autour d'une maternelle, d'une école élémentaire, d'un restaurant, d'une bibliothèque, d'un gymnase, d'un parking et d'espaces extérieurs. Intelligent, modeste, joyeux et partagé, a commenté le président du jury, le célèbre architecte Christian de Porzampar. Ça claque, hein.
Qu'est-ce que tu cherches exactement ?
De l'aide.
La loi ne fait pas de cadeaux.
Tu veux finir en prison avec elle ?
Et enfin, mercredi de grand froid, on se réchauffe au cinéma, car aujourd'hui dans les salles, l'événement, c'est l'événement. La deuxième réalisation de la jeune cinéaste Audrey Diwan, récompensée d'un Lion d'or à Venise en septembre dernier. Variation libre autour du roman d'Annie Ernaux, le film impressionnant de maîtrise formelle raconte l'histoire d'un avortement clandestin dans la France des années 60, mais aussi le poids du secret et le poids de la honte imposé alors par la société. C'est de toute beauté. Et Yvan Attal, invité de Boomerang ce matin pour Les Choses Humaines en salle mercredi prochain, un film dans lequel vous faites tourner à nouveau Charlotte Gainsbourg et votre fils, à tous les deux, Ben Attal, diriger ses proches. Quelle expérience est-ce que c'est ?
Je sais pas, en fait, j'arrive pas à comprendre ce que c'est d'être avec eux sur un plateau, parce que, évidemment, depuis qu'on me pose la question, quand même, j'essaye de trouver une réponse.
Ah, vous êtes obligé d'y réfléchir.
Non, mais oui, mais voilà, non, mais donc ça veut dire que j'y réfléchis. Non, je sais pas, c'est très étrange, parce qu'au départ, franchement, je les caste. En fait, quand on fait un casting, on a envie d'acteurs avant tout qu'on aime. Ces deux-là, je les aime. C'est déjà la base de ça. J'ai envie de les filmer, j'ai envie de les voir, j'ai envie de rentrer dans eux avec ma caméra. Voilà, c'est quand même ça. Les acteurs, on a envie de les regarder de très très près, quoi. Mais
au point que ça devienne une affaire de famille.
Ben ça devient une affaire de famille. Là, c'est vrai que il y avait aussi une émotion évidente que j'avais envie de capter entre une mère et un fils. Une mère. Dévastée d'abord parce que son fils est accusé de viol, mais aussi parce qu'elle est une féministe, que c'est son combat depuis toujours et que ses convictions sont totalement ébranlées, et que l'émotion qu'il y a à certains moments dans le film, certaines scènes entre elle et lui, je pensais qu'effectivement leur rapport serait au service du film. Et il y a effectivement des regards quand Charlotte, le personnage de Charlotte, vient témoigner à la barre, et que son fils dans le film et dans le box, il y a des regards entre eux qui sont vraiment troublants.
Qui ne mentent pas.
Voilà.
Vous savez, c'est intéressant parce que les histoires de famille, on les trouve partout dans votre cinéma, Yvan Attal. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces histoires-là, précisément ?
Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis touché par ça, ramené à ça.
Dans quelle famille est-ce que vous avez grandi, vous ?
Oh, bah, j'ai grandi dans une famille... D'abord, je suis le seul enfant. J'ai été très, très aimé par des parents magnifiques. Mon père était horloger, ma mère travaillait pas, elle s'occupait de moi. Heureusement, j'avais des cousins germains qui habitaient en face de chez moi, donc je me sentais pas si seul que ça.
C'est une famille où rien ne vous prédestinait au cinéma ?
Absolument rien. Rien, on m'a jamais... Si, je suis allé voir Bambi, je me souviens être allé voir Bambi avec ma maman, même je crois la moutarde me montonnait. Je savais pas que j'allais voir ma future belle-mère au cinéma. Je me souviens de ma mère qui s'est engueulée dans le cinéma. C'est des souvenirs comme ça, hein, avec un type derrière moi parce qu'elle me parlait pour m'expliquer 2-3 choses. Je suis allé voir un film avec Clint Eastwood avec mon père. C'est tout. En revanche, on me quand même le samedi, on me déposait au cinéma Ça, c'est fou quand même quand j'y pense, parce que ma mère travaillait avec mon père le samedi, elle lui filait un coup de main et du coup, il n'y avait personne pour me garder. Et il y avait un cinéma de quartier dans lequel on me déposait à la séance de 14h. Et je, comme c'était permanent, je faisais la journée. Donc j'attendais qu'ils viennent me chercher quand ils avaient fini cette journée. Et alors, des fois, je voyais des films qui ne s'adressaient pas du tout à moi. Parce qu'entre peut-être entre 7 et 12 ans, j'ai fait ça tous les samedis après-midi. Je regardais le film de la semaine.
Et un jour, il y a eu ça.
Your wife and children, are you happy with them?
Ta femme, tes enfants, tu es heureux avec eux?
Very happy.
Très heureux.
That's good.
Bien.
Hope you don't mind the way I...
J'espère que ça ne t'ennuie pas, que je te parle toujours de Barzini et tout ça.
Non, pas du tout.
It's an old habit.
Une vieille habitude.
I spend my life trying not to be careless.
Je passe ma vie à essayer de ne pas faire d'erreurs.
Women and children can be careless, but not men.
Les femmes, les enfants peuvent faire des erreurs, mais pas nous.
How's your boy?
Et ton fils?
On parlait de famille.
Ah bah non, mais voilà pourquoi. C'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma et c'est vrai que je ne retiens pas du tout de ce film les intrigues de mafieux, quoi.
C'est un film sur la famille pour
mais
vous.
C'est tout ce que je vois. C'est un père, ses enfants, c'est une fratrie, c'est des frères entre eux, leurs sœurs. C'est tout ce que je retiens du film et c'est tout ce que je vois. Tous les revolvers et les histoires de mafia, ça me reste pas du tout. Mais là, j'écoute ces dialogues, je peux pleurer en 4 secondes.
Hein. Le parrain de Francis Ford Coppola, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Yvan Attal?
Bah, ça m'a donné envie de faire du cinéma, c'est juste. Et puis, comme je fais que ça dans ma vie aujourd'hui, je pense que évidemment, c'est au départ de. Alors, je l'ai découvert en vidéo, je l'ai vu au cinéma bien plus tard. Je sais pas comment cette cassette est arrivée
c'est
dans
pour
mon magnétoscope.
Lui que vous vous êtes inscrit dans un cours de théâtre.
C'est pour, pardon.
Pour ce parrain, justement.
Probablement. Ça veut dire que ce film m'a bouleversé pour les raisons dont on parle, les rapports que le père a avec ses fils, que les fils ont avec leur père, et puis évidemment j'ai continué à suivre ces acteurs au cinéma. Et un jour, j'ai réalisé que c'était un métier, quoi, que c'était des gens qui travaillaient.
Qu'est-ce que vous attendez vous d'un acteur, d'un comédien? En tant que réalisateur,
j'ai envie, j'aimerais, je sais pas. On a envie de vérité, on a envie de trouver une vérité avec un acteur. On n'a pas simplement envie d'être juste. On a envie du moment où la chose va être vraiment vivante devant la caméra, qu'on va pouvoir filmer un être humain, quoi. Voilà. Donc c'est très difficile et c'est pour ça que je pense que je suis passé moi derrière la caméra parce que. J'avais du mal à faire l'acteur. C'est tellement difficile. Aujourd'hui, j'y retrouve énormément de plaisir. Peut-être parce que je me libère de certaines choses, mais c'est tellement difficile.
Et pourtant, juste après avoir été recalé du concours du conservatoire, on vous a proposé un rôle dans l'inoubliable Un monde sans pitié d'Éric Rochon. Et là, bam, César du meilleur espoir masculin. Au fond, à quoi ça tient? Un moment? Un hasard?
Un film, un metteur en scène d'abord, avant toute chose. C'était quand même un bon film.
Ouais.
J'ai eu de la chance. Je sors du cours de théâtre et je tombe sur Éric Rochant et sur Un monde sans pitié, un film qui a été quand même le film d'une génération. J'aurais très bien pu d'ailleurs c'était peut-être et probablement un cadeau empoisonné parce que sortant du cours Florent et ce premier film belle critique, succès populaire, reconnaissance des gens du métier, etc. Tout d'un coup, je me suis dit bon bah voilà, c'est ça le cinéma, c'est ça que je voulais faire quoi.
Quand vous l'envoyez,
et le deuxième film, il se passe rien du tout, et le troisième film, il se passe rien du tout, etc. Là, j'ai compris que c'était quand même un peu plus difficile que ça.
Mais quand vous le revoyez, ce monde sans pitié, vous dites quoi?
Ah non, je le revois pas.
Jamais.
Non, c'est pas possible. Non. Peut-être si un jour, par hasard, je zappe et je tombe dessus, je resterai peut-être 10 minutes dessus, mais je crois pas que je peux pas revoir les films.
Il l'a vu votre fils, il vous en a parlé?
Je sais pas s'il a vu Un monde sans pitié d'ailleurs. Il a pas vu grand chose avec nous. Non mais c'est vrai, il s'est un peu désintéressé de son père et sa mère. Il a un peu, j'imagine comme tous les ados, rejeté son père, sa mère, son milieu, etc. Donc je pense qu'il les découvrira plus tard.
On va en reparler, évidemment, Yvan Attal, juste après Nat King Cole quand même, Nature Boy, en 1948, qui résonne magnifiquement dans votre film Les choses humaines. Vous êtes sur France Inter avec Yvan Attal, donc vous écoutez Boomerang, on est mercredi.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, oh, and see. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
France Inter, Boomerang.
Ah bah, il est nature, hein. La mèche brune, nature, l'œil circonspect, nature, la dent, nature. Quelque part entre le trappeur canadien, le pèlerin sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, chargé d'un indescriptible barda, ou tintinabule, gamelle, mousqueton, arceau métallique pour une partie de croquet au débotté entre deux cols, tout en chemise noire. Ce matin, avec son casque vissé sur les oreilles, le cinéaste et comédien Yvan Attal, invité de Boomerang pour Les choses humaines en salle mercredi. Variation, on le disait, sur le roman de Karine Thuil qui raconte le procès d'un garçon accusé de viol par la fille du nouveau compagnon de sa mère. Un film où vous vous confrontez à un registre auquel on ne vous attend pas forcément, qui est celui du drame, Yvan. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre façon d'aborder la mise en scène et la direction d'acteur ?
En fait, rien.
Ah.
Non. En fait, j'ai abordé ce film comme j'ai abordé les précédents, avec la même envie de mettre en scène, avec le même désir de cinéma, avec les mêmes questions, les mêmes réflexions. Alors, pas les mêmes questions, mais le même questionnement. Mais j'ai abordé ce film comme j'ai abordé les autres. Il se trouve que c'est plus dramatique. J'attendais ce moment, quand même. Évidemment, le roman m'a donné cette occasion. Ceci dit, j'avais déjà écrit un scénario avec ma co-scénariste. Je m'apprêtais à préparer un film quand j'ai lu le livre de Karine Thuil, qui était déjà un film noir. Donc j'avais déjà amorcé le virage.
C'est-à-dire qu'il y a une pression en moins quand même qui est celle de faire rire.
Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très... En même temps, j'ai jamais abordé la comédie en me disant il faut que les gens rient. Ça veut dire j'ai jamais pensé que c'était le but ultime. Évidemment que je faisais confiance au scénario, aux situations drôles, etc. Mais j'étais quand même malgré le but de faire rire, j'étais quand même plus obsédé par la forme de comment on raconte l'histoire, comment on va croire à cette histoire. Parce que je pense que si on y croit, on rigole.
Et qu'est-ce qui fait la force d'une comédie pour vous, en fait ?
Oh ben ça dépend des comédies, mais il y a des gens qui vont au rire absolument. Et puis après ça dépend des comédies. Il y a des comédies de situation, puis il y a des comédies qui tiennent au dialogue, aux bons mots, etc., etc. Mais pour revenir au drame, c'est vrai que j'ai eu un plaisir énorme à changer de registre et à prendre mon temps dans les plans, parce que justement la comédie implique parfois un rythme qui vous empêche de cadrer d'une façon, de prendre le temps, d'installer une atmosphère, etc. Et c'est pour ça que c'est difficile la comédie, parce que les comédies qui ont aussi une belle forme, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le rire vous impose un rythme.
Et là, vous êtes ancré avec les choses humaines dans un contexte, dans une époque bien particulière qui est la nôtre. Et en fait, à l'exception de Ils sont partout, Yvan Attal, c'est peut-être le seul film que vous y réalisez jusqu'à présent qui parle véritablement d'aujourd'hui, j'ai l'impression. C'était un besoin de votre part.
Enfin, il y a eu Ils sont partout. Le Brio parlait aussi de choses d'aujourd'hui. Après, la forme des films, c'est vrai que les choses humaines, c'est concret, c'est frontal. Et que il n'y a pas du tout justement, il y a rien qui vient adoucir le propos. Ils sont partout. C'est quand même une comédie. Ça se voulait drôle. Je suis pas sûr que je sois arrivé à mes fins, mais je pense que le sujet et l'époque à laquelle le film est sorti a complètement, comment dire, phagocyté le film, vraiment. Mais peu importe. Et puis dans le Brio, il y avait une espèce de chose aussi un peu sweet.
Tandis que là, c'est pas le cas.
Là, c'est pas le cas.
Dans quelle époque est-ce que vous avez l'impression de vivre, vous qui avez incarné un monde sans pitié?
Ben, je me demande aussi quand je regarde mes enfants, moi je suis quand même dans mon époque. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de chose qui avance comme ça, qui est assez logique. Quand je regarde hier, je comprends parfaitement aujourd'hui et je suis un peu effrayé, un peu par demain, quoi. C'est une époque un peu, oui, une époque un peu effrayante. On parlait de justice tout à l'heure, de ces jugements à l'emporte-pièce, de gens qui peuvent plus parler de peur d'être jugés eux-mêmes, etc. C'est vrai qu'on est de plus en plus étriqués, quoi.
Vous avez l'envie, parfois, de faire un pas de côté, de vous retirer? Ça va jusque-là?
Oui. Oui, oui, absolument. Vous m'avez demandé de choisir un texte qui parle de ça, d'ailleurs.
Le loup des steppes.
Le loup des steppes. C'est quand même l'envie, à un moment... de ne plus être obligé de vivre ce que la vie nous impose, quoi.
C'est un texte extraordinaire de Hermann Hesse, et j'aimerais qu'on vous entende le lire, si vous le voulez bien.
Pas très bon lecteur.
Vous êtes comédien quand même, Yvan.
Oui, je suis un comédien, mais bon. Alors.
Je voulais rassurer tout le monde, moi, dans cette émission.
Hélas, il est bien difficile de trouver une trace divine au sein de l'existence que nous menons, au sein de notre époque tellement satisfaite, tellement bourgeoise, tellement décérébrée, face à ces architectures, à ces grands magasins, à ce monde politique, à ces individus. Comment ne pas devenir un loup des steppes et un ermite sans manière dans un monde où je ne partage aucune des aspirations, dont je ne comprends aucun des enthousiasmes. Je ne puis tenir longtemps dans un théâtre ou un cinéma, je lis à peine le journal et rarement un livre contemporain. Je suis incapable de comprendre quel plaisir et quelle joie les hommes recherchent dans les trains et les hôtels bondés, dans les cafés combles où résonne une musique oppressante et tapageuse, dans les bars et les music-halls des villes déployant un luxe élégant, dans les expositions universelles, dans les grandes avenues, dans les conférences destinées aux assoiffés de culture, dans les grands stades. Non, je ne suis pas capable de comprendre et de partager toutes ces joies qui sont à ma portée. Dans la vie, on traite cela de folie. Et de fait, si la majorité a raison, si cette musique dans les cafés, ces divertissements de masse, ces êtres américanisés au désir tellement vite assouvi représentent le bien, alors je suis dans l'erreur, je suis fou, je suis vraiment un loup des steppes, un animal égaré dans un monde qui lui est étranger et incompréhensible, un animal qui ne trouve ni foyer, ni oxygène, ni nourriture. Voilà.
Yvan Attal, qu'est-ce qui vous nourrit, vous?
Qu'est-ce qui me nourrit? Je crois, évidemment, les films, les livres, la musique, beaucoup. Enfin, bien moins en même temps, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que c'est les choses qui m'ont rempli, quoi. Voilà. La musique, surtout. La musique, ça me remplit... Quand j'ai besoin, quand j'ai faim, justement, je me retire et j'écoute de la musique dans mes oreilles.
Parce qu'à quel moment est-ce que vous vous êtes senti vide, plus vide que jamais?
Oh là, j'ai des choses qui m'arrivent à l'esprit dont je n'aurais pas du tout envie de parler, mais peut-être quand, je sais pas, quand les gens que vous aimez vous quittent.
créer, ce que vous faites quand vous faites des films, ça remplit?
Oui, évidemment. D'ailleurs, j'ai de plus en plus envie de faire des films. Je réalise que quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, autant d'Un monde sans pitié, justement, etc., j'avais pas conscience. Je crois que j'aimais moins mon métier que maintenant. Je faisais un film, et puis en fait, j'avais assez gagné d'argent pour m'en aller quelques temps, et je revenais quand j'avais besoin de pognon. Et j'ai laissé passer des films, mais aujourd'hui, j'ai une envie dingue d'être sur un plateau, de tourner, de faire l'acteur, d'écrire. Je crois que je suis de plus en plus passionné par le cinéma.
Et vous faites bien, parce que ça marche. Merci infiniment, Yvan Attal, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Les Choses humaines, avec Ben Attal, Suzanne Joanet, mais aussi Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi, Benjamin Laverne, Judith Chemla notamment, sort la semaine prochaine. C'est un film très réussi. J'invite évidemment les auditeurs à se replonger dans le très complexe et très réussi roman de Karine Thuil aussi. Tout de suite, Les Médias, Sonia De Villers et Son Instant M, juste après ça.
Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut m'en.
Laura Cahen, désarmée, il est 9h40 sur France Inter et c'est l'heure de Sonia De Villers avec l'instant M. Ça va Sonia?
Ben ça va Augustin, bon ben salut,
salut.
On se retrouve demain.
À demain.
Ciao.